Occitanie, terre d'extase. Extase, parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art, que nous nous en oublions nous-mêmes. Qui est donc Audrey Marty, auteur du livre paru aux éditions Le Papillon Rouge sous le titre « Le destin fabuleux » de Jeanne Dieulafoy, de Toulouse à Persépolis, l'aventure au féminin. Audrey Marty, que vous entendrez dans quelques instants grâce à l'interview qu'elle nous a donnée, est diplômée d'histoire de l'art. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont « Le Grand Toulouse et ses peintres », ainsi que, très récemment, « La véritable histoire de la première dompteuse du monde, Numa Hawa, reine des fauves », aux éditions Métropolis. Mais parlons maintenant du « Destin fabuleux » de Jeanne Dieulafoy, de Toulouse à Persépolis. Audrey Marty nous livre sous ce titre un récit ponctué de temps forts et de scènes émouvantes, qui tient du roman d'aventure, bien qu'il apparaisse vite comme la relation fidèle et circonstanciée de deux expériences vécues, celle de Jeanne et de son époux Marcel Dieulafoy. Audrey Marty nous emmène vraiment en voyage, ce qui constitue un tour de force littéraire et une démonstration de son art biographique. Audrey Marty entame son ouvrage par la description de l'activité de Jeanne et de Marcel Dieulafoy, en possession l'un et l'autre, on le verra, d'une impressionnante palette de compétences techniques et artistiques. Il est, lui, de 7 ans, son aîné. Nous sommes plongés d'emblée dans le vif du sujet. On voit cette Jeanne Dieulafoy, qui n'est pas encore Jeanne, renoncer à la robe parce que la robe l'ennuie. Or, nous sommes dans le dernier quart du XIXe siècle, les femmes ne portent pas le pantalon, sauf exception rarissime. Toulousaine, la famille de Jeanne prend, dès qu'elle le peut, la direction du château familial de Langlade, au bord du canal du Midi. Marcel compte plusieurs capitouls parmi ses ancêtres. Son père, négociant en tissu, possède un commerce florissant dans la rue des Arts à Toulouse. Marcel devient ingénieur des ponts et chaussées et sa première mission le conduit en Algérie. Elle influencera sa carrière, dont un aspect récurrent consistera pour lui à s'interroger sur les influences de l'architecture orientale en Occident. Le couple se marie en 1870, 2 mois avant que n'éclate la guerre, et se retrouve à la tête d'une fortune conséquente, souligne Audrey Marty. Fait extraordinaire pour l'époque, Jeanne part elle aussi à la guerre. Durant l'effroyable hiver 1870-1871, elle est de toutes les opérations militaires. Son époux Marcel et elle font cause commune. Ce baptême du feu va orienter définitivement son existence vers une indépendance marquée, sous-tendue par l'affirmation de l'égalité femme-homme. De retour à Toulouse, la tragique inondation de 1875 fait émerger la personne de Marcel Dieulafoy, qui, en organisant les secours, se voit reconnu et loué jusqu'au plus haut niveau de la nation. Le président de la République en personne, le maréchal MacMahon, lui remet la médaille de la Légion d'honneur. Bien sûr, cette notoriété grandissante ne lui épargne pas l'adversité. En tant qu'ingénieur de la ville, il contribue au chantier d'assainissement conduit par Viollet-le-Duc. Ce sera pour lui une opportunité de mettre à profit son très vif intérêt pour l'archéologie. Il se distingue par la découverte d'une fresque du couronnement de la Vierge dans une chapelle latérale de l'église des Augustins. Cette réussite, associée à la rencontre avec Viollet-le-Duc, lui met le pied à l'étrier. Audrey Marty nous montre alors comment, toujours en réflexion sur les origines de l'architecture occidentale, Marcel Dieulafoy sentira se développer en lui une véritable vocation d'archéologue. Progressivement, il formera le projet inouï de se rendre en Orient pour y entamer des recherches lui permettant d'étayer son hypothèse selon laquelle le rôle de la Perse dans l'histoire de l'art avait été considérable et que son influence s'était étendue dans l'Inde, l'Orient chrétien et musulman, en Russie, en Italie septentrionale et en Extrême-Orient. Jeanne sera la première à se réjouir de cette perspective d'un grand voyage hors de l'Europe. Et puis, que sont les ennuis quand on a la passion? Parfois, à quelque chose malheur peut être bon, car mêlé de près à un scandale financier en lien avec la rénovation du théâtre du Capitole, Marcel doit démissionner. Des années de mauvaise fortune vont frapper la famille de Jeanne, tout autant que celle de Marcel. À ce stade du récit, on est pris par le souffle de l'aventure telle que l'auteur nous invite à la vivre. Cela étant, il ne serait pas juste de trop révéler et de briser ici le suspense qu'elle réussit à maintenir de chapitre en chapitre, jusqu'à la toute fin du livre où nous attendent de dramatiques révélations. Le 16 février 1881, Marcel et Jeanne Dieulafoy quittent Marseille pour la Turquie. Ils ignorent que le navire qui les transporte en Orient est une véritable poudrière flottante. Ce ne sera d'ailleurs pas le seul inconvénient qu'ils auront à subir tout au long des 7 années que dureront leurs audacieuses expéditions. Et nous voilà embarqués avec eux à bord de la minutieuse et palpitante biographie composée par Audrey Marty avec près plusieurs années de recherche. D'un voyage à l'autre, les époux Dieulafoy feront montre d'une curiosité, d'une intuition et d'une persévérance inégalables. Ce docte couple d'aventuriers va vivre d'extraordinaires péripéties et rencontrer partout les grandeurs de l'humain, associées dans des proportions très variables à l'adversité la plus crasse. Ne serait-ce pas cela aussi qui fonde la véracité et l'intérêt du récit. La narration haletante de certaines fouilles entreprises en Perse, ainsi que celle des démêlés avec la population locale, sont un modèle du genre. On s'attache à l'héroïne. L'auteur sait nous la rendre éminemment sympathique, tout autant qu'admirable dans sa vie et dans ses œuvres. Et cela à 1,5 siècle de distance. Jeanne Dieulafoy s'affirme de plus en plus en ce que l'on appelle familièrement un phénomène. Si cette lecture nous transporte aussi irrésistiblement, c'est que la langue est précise, légère et sensible. Le mot juste n'est jamais trop technique tout en ne dédaignant pas une certaine érudition. D'une façon qui n'altère jamais la souplesse du récit, s'appuyant sur des connaissances approfondies. L'écriture est enjouée, agile, rapide, volubile, bien structurée, elle nous entraîne d'un siècle à l'autre jusqu'à la Première Guerre mondiale. Jeanne, devenue Jane, après avoir été brièvement Jean, le lecteur saura pourquoi, Jane donc demeurera dans l'histoire comme la promotrice ardente et éclairée d'un féminisme qui fera école. Noble tâche que celle menée à bien par l'auteur, faisant ressurgir dans la mémoire l'attachant personnage de Jeanne Dieulafoy, qui aurait fini par s'estomper et tomber dans l'oubli. Ce portrait de Jeanne retrouve aujourd'hui toutes ses couleurs et son importance collective grâce au verbe assuré d'Audrey Marty. Bonjour Audrey Marty. très heureux
Bonjour.
de vous avoir en ligne ici pour parler de votre ouvrage, très bel ouvrage et très instructif sur Jane Dieu la foi. Enfin, je dis Jane, mais elle s'appelle Jeanne, sauf qu'à un moment donné, elle a changé son prénom en Jane, et peut-être parce qu'elle se sentait citoyenne du monde et qu'elle trouvait que l'anglais était plus accessible, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Mais avant cela, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire comment et où vous avez découvert cet extraordinaire personnage ?
Oui, alors ma rencontre avec Jeanne Dieu la foi a eu lieu en 2013. En fait, dans une ancienne vie, puisque maintenant je suis écrivain, mais dans une ancienne vie, en fait, j'étais vidéaste et j'avais fait aussi des études d'histoire de l'art et j'avais envie de trouver un sujet, parce que je faisais beaucoup de films commerciaux, mais là j'avais vraiment envie de trouver un sujet historique pour réaliser un petit reportage, en fait. Voilà, j'étais partie sur une idée de documentaire et je cherchais une femme parce que je trouve que c'est bien de mettre en avant les femmes, surtout qu'elles ont beaucoup été invisibilisées pendant longtemps.
Il y a un déficit d'image, oui, c'est vrai.
Voilà. Et donc j'avais envie, voilà, j'avais à cœur de mettre en avant une femme, et comme je suis toulousaine, il m'a semblé plus pratique au départ de chercher quelqu'un issu de ma ville ou de ma région. Et en fait, au départ, j'ai fait des recherches tout simplement sur Internet. Et j'ai trouvé ce nom, Jeanne Dieu la foi. J'ai trouvé que c'était déjà
ce
un
nom,
nom assez romanesque. Et donc j'ai fait des recherches sur elle et je me suis aperçue qu'elle était enterrée au cimetière de Terre-Cabade à côté de chez moi. Et donc la première rencontre a eu lieu au cimetière, donc je suis allée voir, voilà, me recueillir sur sa tombe. Et ensuite je suis allée faire d'autres recherches à Pompertuzat, puisque c'est la commune du Lauragais où elle est décédée et où elle avait un château. Et donc là, j'ai commencé à faire des premières recherches et je suis tellement tombée en amour, on va dire, de ce personnage que j'ai choisi d'en faire un livre.
Oui, et le lecteur aussi tombe en amour. Je peux vous dire que j'ai vraiment éprouvé de l'affection tout de suite pour ce magnifique personnage. Alors, ce que vous venez de dire à propos de votre intention initiale, qui était de chercher un sujet pour faire des images, alors que vous avez fait, heureusement pour nous tous, un très beau livre, ça explique aussi peut-être que votre livre, si je peux le souligner, apparaît comme très visuel, et c'est ce qui le rend d'ailleurs aussi très agréable, d'autant plus qu'avec elle, avec Jeanne Dieu la foi, on voyage beaucoup, donc on voit du pays, on voit des paysages, et le fait que le texte restitue très bien ces images ajoute encore beaucoup à cette vie qu'on pourrait dire romancée. Mais vous n'avez pas fait un roman, vous avez donné une biographie de cette femme.
Oui.
Alors, quel est, à votre avis, l'héritage de Jeanne Dieu la foi et qui sont ses héritiers, s'il y en a ? Au plan, alors, vous allez nous dire, peut-être plutôt archéologique, scientifique.
Et en fait, Jeanne Dieu la foi, elle est considérée comme la première femme archéologue en France, puisqu'elle a commencé à faire des fouilles archéologiques avec son mari Marcel vers les années 1881, donc en Perse, plus précisément dans le sud-ouest de la Perse, à Suse, qui était une ancienne capitale donc du royaume achéménide. Et donc oui, c'est la première femme. Et on va dire qu'à son époque, il y avait, justement, j'en parle, j'ai fait tout un chapitre sur ça dans le livre, qui parle de ces couples de voyageurs ou de ces couples d'archéologues qui partaient donc faire des découvertes en Orient. Et donc, le couple Dieu la foi est parmi un des premiers. Ensuite, il y a le couple Chantre Ufalvi. Ils ont un nom un peu plus compliqué. Qui était moitié français, moitié russe. Et eux sont partis un peu plus vers l'Irak, vers Bagdad, où ils ont fait des fouilles archéologiques. Et c'est à peu près à la même époque. Et en fait, c'est vraiment le début de l'archéologie, la fin du 19e siècle. Et ensuite, il y a eu des suiveurs qui ont continué à faire ça. Et en fait, il y avait une guerre, on va dire, entre les principaux pays, notamment donc le Royaume-Uni et la France et l'Allemagne, qui se faisaient une petite guerre en fait à celui qui aurait le plus de vestiges dans son musée. Et donc c'est comme ça en fait que l'archéologie s'est développée et les dieux Lafont ont permis donc l'ouverture du département d'Antiquité orientale du Louvre et ils ont ouvert la voie à l'archéologie française. En Iran. Donc, c'est vrai que pour eux, on peut dire que c'est des pionniers de l'archéologie
Tout à
et
fait.
qu'ils ont eu des suiveurs ensuite qui ont, même encore de nos jours, il y a des fouilles encore archéologiques faites par la France. Et donc, on peut
Qui
dire
sont,
que c'est eux
voilà,
les
les
précurseurs. Et dans les
précurseurs,
femmes voyageuses, on peut parler notamment d'Alexandra David-Nil,
oui, bien
qui, elle,
sûr.
a préféré partir plus à
Oui,
l'est, donc jusqu'au
ouais,
Népal.
oui.
Et donc, elle, c'est la première femme à avoir franchi, je crois, Katmandou.
Oui.
Pareil, je
Oui.
crois qu'elles ont une dizaine ou une quinzaine d'années d'écart.
Oui.
Donc,
Il y avait
c'est des femmes
aussi,
assez exceptionnelles et je pense
voilà.
qu'elles ont inspiré les suivantes, en fait,
Oui,
toutes ces
c'est ça,
femmes
comme
voyageuses, aventurières.
Isabelle Eberhardt aussi, qui a été
Oui, qui était je crois que c'était dans l'Atlas, enfin dans
en Afrique,
l'Algérie, le
c'est ça, au
Maroc,
Maroc,
oui.
tout à fait, oui, d'accord. Oui. Eh bien, voilà. Alors, il faut souligner tout de suite aussi que vous avez pu publier cet ouvrage aux éditions Le Papillon Rouge, hein, parce qu'on ne l'a pas mentionné en début d'émission, mais il faut le rappeler.
Oui.
Voilà.
C'est
Donc,
important parce que c'est eux
oui.
qui m'ont fait confiance pour ce
Voilà.
premier livre
Oui, tout à
et
fait.
je les en remercierai jamais assez.
Mais oui, c'est ça. Oui, d'autant plus que vous venez de dire, je suis maintenant écrivaine et ça passe évidemment par des phases éditoriales et ça, c'était peut-être l'une des premières, pas la première tout à fait, je crois, hein. Vous aviez fait
Si,
un livre
enfin,
avant.
j'ai mis longtemps à trouver un éditeur pour Jeanne Dieu Lafoy,
Ah oui.
et c'est vrai que c'était de longue haleine parce que le sujet n'était pas connu et moi
Oui.
non plus.
Oui.
Et moi qui pensais que le côté inédit
Oui.
jouera en ma faveur, et bien c'était pas forcément le cas. Le monde de l'édition est assez complexe.
Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué la question de savoir si elle était citoyenne du monde, si elle se pensait comme ça, mais est-ce qu'elle était aussi attachée à sa région d'origine, Jeanne Dieulafoy, à
Oui,
l'Occitanie?
ben, en fait, j'ai découvert, quand j'ai fait des recherches sur le couple Dieulafoy, j'ai découvert que dans la famille Dieulafoy, du côté donc de Marcel et de son frère Georges,
Oui.
qui était un éminent médecin,
Oui.
tous les deux, leur mère, parce que leur père est décédé, ils étaient assez jeunes, c'est leur mère qui les a éduqués et elle a tenu à effacer leur accent, parce qu'apparemment, elle trouvait
Alors
que ça
bon.
faisait pas forcément très sérieux.
Ouais.
Donc, eux avaient fait cet effort-là de perdre leur accent. Quant à Jeanne, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand ils étaient chez eux à Paris, sur le manteau de leur cheminée, il y avait une sorte de, comment dire, de légende,
Ouais.
écrite en occitan,
Ah, très.
qui signifiait un peu, celui qui se moquera des autres devant toi, méfie-toi-en, il se moquera de toi devant les autres.
Oui. Ouais,
Et cette phrase, voilà, était sur le manteau de leur
ah,
cheminée,
très
donc
bien.
en occitan, et
Ouais.
c'est là que je me suis dit, oui, leur racine devait quand même être assez présente. Et quand ils étaient là-bas, ils fréquentaient beaucoup de gens qui étaient originaires du Languedoc. Donc ils avaient quand même
Ouais.
continué à avoir ce lien.
Bien sûr, oui. Et ces familles, la sienne et celle de Marcel, son mari, étaient des nantis, on peut dire, de la région, puisque je crois qu'elles se promenaient de château en château, enfin, pas très nombreux les châteaux, mais enfin, c'était quand même des demeures ou des manoirs de la région assez en vue, c'est ça? Vous en...
Oui, la famille de Jeanne, donc son nom de jeune fille, c'est Magre. Et la famille Magre, elle possédait un château à Pompertuzat
Oui.
qui a été depuis détruit, où
D'accord, ouais.
elle a fini ses jours.
Ouais.
Et ils avaient aussi un château dans le Tarn-et-Garonne.
Oui, c'est cela.
Donc oui, c'était quand même des bourgeois,
Oui.
ils travaillaient dans le textile.
Oui.
La famille de Marcel aussi. Et par contre, les Dieulafoy, eux, ils avaient la charge de greffier des capitouls, ce qui était une charge assez honorifique.
Tout à fait,
Et
oui.
donc, on peut dire qu'ils étaient Toulousains depuis très longtemps. Voilà,
Oui.
c'est des familles endémiques de la région.
Alors, dans votre livre, et ça le rend captivant notamment, il y a le récit d'un certain nombre, ou de nombreuses mésaventures, soit de Jeanne toute seule, soit du couple, très souvent du couple d'ailleurs, en Orient. Quelle est la mésaventure qui vous a le plus marqué? Parce que, bon, on ne veut pas faire un concours des malheurs de l'archéologue, mais il y en a quand même eu beaucoup.
Oui, il y en a un, je me souviens, c'est quand ils ont voulu aller visiter Persépolis.
Ah oui.
Ils étaient avec des guides qui leur avaient conseillé d'aller passer la nuit donc chez l'habitant, et eux ont préféré rester sur place
C'est
parce que
ça,
c'était plus commode pour
Ah
faire des relevés, parce qu'ils faisaient des dessins, ils faisaient des relevés topographiques, ils prenaient des photographies. Et en fait, ils ont passé la nuit dans un caravansérail abandonné.
ouais.
Et le lendemain matin,
Voilà.
quand ils se sont réveillés, ils étaient remplis de piqûres de moustiques.
Ouais.
Et les deux, en se regardant, se moquaient l'un de l'autre, mais se disaient voilà qu'ils ressemblaient à des monstres. Et heureusement qu'ils étaient que tous les deux parce qu'ils auraient effrayé tout le monde. Et on se rend compte voilà que c'était vraiment très compliqué leurs travaux d'archéologue. Et une autre, je dirais aussi, c'est quand Marcel a fait un malaise et que Jeanne a dû le transporter sur une charrette en baragouinant le peu qu'elle connaissait de persan
D'accord, ouais.
pour pouvoir aller jusqu'à la capitale et le faire soigner.
Je dois dire que quand on lit votre récit, on se dit à leur propos, mais quand vont-ils arrêter? Où vont-ils arrêter? Et puis non, ils continuent, ils persévèrent, et d'ailleurs ils vont jusqu'au bout, et même presque plus loin que le bout, si j'ose dire, avant de revenir en France et à Paris et dans la région. C'était très étonnant. Voilà, c'est un livre formidable, c'est une aventure de vie entière. Consacré à l'archéologie et à l'art, donc aussi. Et quand on le lit comme ça, on admire ces personnages qui croient en leur destinée, leur bonne étoile, parce que il fallait une bonne étoile pour échapper à tous ces dangers qui en fait,
Oui, qui était sur
pavaient
leur
leur
chemin. C'est
route,
vrai que
oui,
c'était
complètement.
voilà, un
Ouais.
parcours du combattant et ils
Voilà.
ont laissé beaucoup de leur santé aussi.
Tout de même, hein, oui, ça c'est ce que vous dites, effectivement, et c'est bien sûr dommage. À quel âge est-elle morte, Jeanne de la Foix,
Elle
au
est morte à
Perthusat?
65 ans et
Ah
son
oui.
mari, il est mort, il était un peu plus âgé qu'elle,
Oui.
donc il est mort un peu plus tard, lui, il est mort
Bon.
4 ans après.
4 ans
Mais en
après.
fait, elle est morte de maladie qu'elle a attrapée au Maroc, parce
Oui.
qu'avec son mari, pendant la
Oui.
guerre de 14-18, ils
Oui.
sont allés soutenir
C'est ça.
le général Lyautey
Oui.
pour soutenir les forces françaises à l'extérieur pour qu'elles viennent libérer la France. Et donc c'est voilà en tant que presque on va dire femme au combat qu'elle est décédée.
Oui. Alors, merci pour tout cela. Et maintenant, parlons aussi de votre nouveau livre qui va arriver, là, ou qui est arrivé en librairie, je ne sais trop, vous allez le lire, qui est consacré alors aussi à une femme, mais alors d'un type, ou en tout cas d'une activité totalement différente, encore que, puisqu'il s'agit d'une dompteuse, on pourrait dire que Jeanne de la Foix aussi a été une dompteuse, mais alors des événements qui l'assaillaient. Et là, la femme dont vous allez nous parler dans un instant, était réellement dompteuse, mais dompteuse de quoi?
C'était en fait, elle s'appelait son pseudonyme, c'était Nouma Awa. Et donc le
Vous pouvez
livre, voilà,
l'appeler,
s'appelle.
vous pouvez l'appeler, Audrey.
Alors Nouma, Nouma, plus
Oui.
loin Hawa.
Achat.
Et donc ça veut dire rosée du soir.
Wow.
Et donc Nouma Awa, reine des fauves, c'est mon quatrième livre et donc ma deuxième biographie.
Oui.
Et il est sorti tout récemment, le 7 novembre, aux éditions Métropolis. J'ai changé d'éditeur parce que cette fois-ci, je m'en vais au-delà des terres du
Ah
Languedoc
oui.
et même jusqu'en Suisse, puisque Métropolis est en Suisse. Et en
Oui.
fait, mon héroïne a fini ses jours à Genève, mais elle était originaire de Peaugres dans l'Ardèche.
Ah.
Et en fait, c'est le parcours assez atypique d'une lingère ardéchoise qui s'appelait en fait Marie-Louise Grenier.
Ah oui.
Et donc, quand elle était jeune, elle est partie pour travailler à Lyon et elle s'est retrouvée en fait à tomber amoureuse d'un directeur de foire. Hein. Et c'est comme ça qu'au début, elle est devenue charmeuse de serpents pour finalement devenir dompteuse de lions.
Et pourquoi
Voilà.
ce nom de Numa Hawa?
En fait, c'est elle qui s'est inventée tout le long du livre. J'explique, en fait, de
Ah
son
oui.
vivant, elle a publié sa propre biographie.
Ah voilà.
Et c'est une biographie complètement fantaisiste. Hein.
Bien sûr.
Et elle s'est imaginée des origines orientales parce que ça, on va dire que ça
Ça collait mieux.
alimentait en fait
Ouais.
sa célébrité et
Oui,
ça
oui.
alimentait la curiosité des gens qui venaient la voir
Ouais.
sur le champ de foire.
Oui, ça collait mieux avec le cirque, en fait. Oui.
C'est ça.
Oui,
Voilà,
bien
c'était
sûr.
pour coller avec
Bon.
le cirque plutôt que de dire qu'elle venait du fin fond de l'Ardèche.
Oui.
Et donc c'était une femme assez exceptionnelle aussi comme Jeanne.
Mais oui.
Qui s'est retrouvée en fait à la tête de sa propre ménagerie parce que son mari est décédé sous les
Ah.
crocs d'un lion, justement, parce que c'était un métier quand même dangereux.
En effet.
Et donc c'était la seule femme, du champ de foire à cette époque-là.
Et alors, elle a commis une biographie et vous avez fait écrit une biographie de cette femme. Donc ça a été un peu compliqué parce que elle était très fantaisiste, dites-vous, cette biographie. Donc il a fallu la prendre à distance et tout de même peut-être s'en inspirer.
C'est ça, et justement, c'était l'intéressant du livre, c'était d'essayer de démêler le faux du vrai et arriver d'ailleurs à retrouver ses origines parce qu'on ne
Oui.
savait pas qui
Oui.
c'était réellement. Donc j'ai réussi à créer le lien en faisant beaucoup de recherches archivistiques, notamment pour retrouver son acte de naissance,
Oui, ah oui.
son acte de mariage, son acte de décès. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de recherches dans les archives départementales et nationales
Oui.
de tout ce qui était la presse, en fait, la presse locale. Voilà, et je suis même allée faire des recherches dans la presse italienne aussi, parce que vraiment, c'était une femme qui voyageait beaucoup. Et donc, c'était intéressant de voir dans divers journaux comment on parlait d'elle.
Très bien, bien sûr. Et alors, ce livre, donc, paru en Suisse, va être tout de même dans les librairies de France,
Oui,
on
il est
l'espère
disponible
vivement, bien
en
sûr,
France aussi.
en France aussi. Eh bien, grand merci à vous, Audrey Marty, et puis bon vent à tous ces ouvrages que nous
Merci beaucoup.
recommandons vivement. Au revoir.
Merci, au revoir.
Ce matin-là, Avant même que le soleil ne pointe à l'horizon, la caravane s'est remise en route. Le corps transi de froid, tiraillé par les courbatures, Jeanne et Marcel se réveillent dans la douleur. Cela fait 9 mois qu'ils ont adopté la vie des nomades du désert. Au prix de nombreuses privations et de terribles accès de fièvre, le couple d'aventuriers s'apprête à pénétrer dans la région la plus rude du pays. Oubliant la gelée mordante du petit jour, ils se hâtent donc d'emballer leurs affaires et de prendre leur place dans l'équipage. En ce 8 novembre 1881, les dieux la foi entament la dernière étape de leur voyage. Partis seuls, sans aucune lettre de mission, ils ont déjà accompli près de 3000 kilomètres depuis leur départ. Pour atteindre la destination ultime de leur pérégrination, ils doivent affronter un massif montagneux des plus hostiles. L'ascension, puis la descente vers la plaine, ne sont pas sans danger. Tour à tour, chaque membre de la caravane s'élance sur le sentier longeant le précipice. Pas à pas, ils évoluent lentement au bord du vide. La roche friable se dérobe parfois, provoquant des chutes de pierres que l'on entend dégringoler le long des falaises, jusqu'à disparaître dans un bruit sourd. Dans cette partie du chemin, les cavaliers doivent descendre de leur monture et suivre à pied les 3 sentiers. Devant eux, un convoi d'ânes transportant des bonbonnes de verre remplies d'eau de rose peine à se déplacer. Les sabots des baudets parviennent difficilement à trouver leurs appuis, si bien que de nombreux récipients finissent par se briser, répandant sur le chemin une brume délicieusement parfumée. Et tandis qu'elle vient de quitter sa monture, Jeanne voit son vaillant mulet chuter devant elle. La pauvre bête termine sa course et sa vie dans le lit d'un ruisseau situé en contrebas. À ce moment-là de l'expédition, Jeanne note tristement dans son journal de bord: tout comme les bonbonnes sèment leur eau de rose, j'ai failli arroser de mon sang les rochers du chemin. Extrait du récit de son premier voyage en Perse, cet épisode illustre tout le sang-froid dont Jeanne fait preuve face au danger. Si la quête lui semble juste, elle est prête à braver tous les obstacles qui se dressent devant elle. Poussée dans ses retranchements, elle se révèle d'un courage exemplaire. Le dépassement de soi est dans sa nature profonde. Au soir de son existence, seule la maladie aura raison de son incroyable énergie. Chères auditrices, chers auditeurs, cette émission touche maintenant à sa fin. Merci de l'avoir écoutée. Pendant la pause musicale, vous avez pu entendre « En vacances » du compositeur Déodat de Sévrac, interprété au piano par François-Michel Rignol. Enfin, remercions Léo Touroult, qui, dans le studio de Radio Esprit Occitanie, a apporté tous les soins nécessaires pour que cette émission parvienne jusqu'à vous. Merci aussi à Jacques Lavergne et Jean-Luc Palévody, à la présidence bicéphale de Radio Esprit Occitanie. Chères auditrices, chers auditeurs, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir écoutée. Merci aussi à Léo Touroult, dont les bons soins ont rendu possible cette émission. Thank you.
Thank you.